Iliade, chant 17e. Et le brave Ménélaos, fils d'Atréus, ayant vu que Patroclos avait été tué par les Troyens, courut au premier rang, armé de l'airain splendide. Et il allait autour du cadavre, comme une vache gémissante, qui n'avait point encore connu l'enfantement, court autour du veau son premier-né. Ainsi le blond Ménélaos allait autour de Patroclos, et le gardant de sa lance et de son bouclier égal, il se préparait à tuer celui qui approcherait. Et le Pantoïde, habile à lancer la pique, n'oublia point l'irréprochable Patroclos qui gisait là. Et il s'arrêta devant le cadavre, et il dit au brave Ménélaos, « Atréide Ménélaos, illustre prince des peuples, recule, laisse ce cadavre, et livre-moi ces dépouilles sanglantes, car le premier d'entre les Troyens et les alliés, j'ai blessé Patroclos de ma lance dans la rude mêlée. Laisse-moi donc remporter cette gloire parmi les Troyens, où je te frapperai et j'arracherai ta chère âme. » Et le blond Ménélaos, indigné, lui répondit, « Père Zeus, quelle honte de se vanter au-delà de ses forces. Ni la rage du léopard, ni celle du lion, ni celle du sanglier féroce, dont l'âme est toujours furieuse dans sa vaste poitrine, ne surpasse l'orgueil des fils de Pantos. Le robuste cavalier Hyperénor se glorifiait dans sa jeunesse lorsqu'il m'insulta, disant que j'étais le plus lâche des Danaïens. Et je pense que ses pieds rapides ne le porteront plus désormais vers l'épouse bien-aimée et les parents vénérables. Ainsi, je romprai tes forces si tu me tiens tête, et je t'avertis de rentrer dans la foule et de ne point me braver avant que le malheur soit tombé sur toi. L'insensé seul ne reconnaît que ce qui est accompli. » Il parla ainsi, et il ne persuada point Euphorbos qui lui répondit, « Divin Ménélaos, certes, maintenant tu vas payer le sang de mon frère que tu as tué. Tu t'en glorifies, et tu as rendu sa femme veuve dans la profonde chambre nuptiale, et tu as accablé ses parents d'une douleur amère. Et moi, je vengerai ces malheureux, et je remettrai aux mains de Pantos et de la divine Frontis ta tête et tes armes. Mais ne retardons pas plus longtemps le combat qui amènera la victoire ou la défaite de l'un de nous. » Il parla ainsi, et il frappa le bouclier d'une rondeur égale, mais il ne put le traverser, et la pointe d'airain se recourba sur le solide bouclier. Et l'Atréide Ménélaos, suppliant le père Zeus, se rua avec l'airain, et comme Phorbos reculait, il le perça à la gorge, et la pointe, poussée par une main robuste, traversa le cou délicat. Et le Pantoïde tomba avec bruit, et ses armes retentirent sur lui. Et ses cheveux, qui avaient les reflets de l'or et de l'argent, et qui étaient semblables aux cheveux des Carites, furent souillés de sang. De même qu'un jeune olivier qu'un homme a planté dans un lieu solitaire, où l'eau jaillit abondante et nourrit sa verdeur, et que le souffle des vents mobiles balance, tandis qu'il se couvre de fleurs blanches, mais qu'un grand tourbillon enveloppe brusquement, arrache et renverse contre la terre. De même, l'Atréide Ménélaos tua le brave Pantoïde Phorbos et le dépouilla de ses armes. Quand un lion montagnard, sûr de sa force, enlève la meilleure vache d'un grand troupeau qui paie, lui brise le cou avec ses fortes dents, boit son sang et mange ses entrailles, les chiens et les bergers poussent de loin de grandes clameurs et n'approchent point, parce que la blême terreur les a saisis. De même, nul d'entre les Troyens n'osait attaquer l'illustre Ménélaos, et il eut aisément enlevé les belles armes du Pantoïde, si Phoïbos Apollon, par envie, n'eût excité contre lui Hector semblable au rapide Arès. Et sous la forme de Mentès, chef des Chicones, il dit au Priamide ces paroles ailées. « Hector, où cours-tu ainsi? Pourquoi poursuis-tu follement les chevaux du brave Achilleus, qui ne peuvent être ni soumis, ni conduits par aucun homme mortel, autre qu'Achilleus qu'une mère immortelle a enfanté? Voici pendant ce temps que le brave Ménélaos, fils d'Atréus, pour défendre Patroclos, a tué le plus courageux des Troyens, le Pantoïde Phorbos, et rompu sa vigueur impétueuse. » Le dieu parla ainsi, et rentra dans la foule des hommes. Et une amère douleur saisit le cœur sombre d'Hector. Il regarda autour de lui dans la mêlée, et il vit Ménélaos enlevant les belles armes de Phorbos, et le pandoïde gisant contre terre, et le sang qui coulait de la plaie ouverte. Avec de hautes clameurs, armés de l'airain éclatant, et semblable au feu inextinguible d'Héphaïstos, il s'élança au premier rang. Et le fils d'Atréus l'entendit et le vit, et il gémit, disant dans son cœur magnanime : « Hélas, si j'abandonne ces belles armes, et Patroclos qui est mort pour ma cause, les Danaïens qui me verront seront indignés. Mais si je combats seul contre Hector et les Troyens, je crains que cette multitude m'enveloppe, car Hector au casque mouvant mène avec lui tous les Troyens. Mais pourquoi délibérer dans ma chère âme ? Quand un homme veut lutter contre un autre homme, qu'un dieu honore, aussitôt une lourde calamité est suspendue sur lui. C'est pourquoi aucun Danaïen ne me blâmera de me retirer devant Hector, puisqu'il est poussé par un dieu. Si j'entendais le brave Aias dans la mêlée, nous retournerions tous deux au combat, même contre un dieu, et nous sauverions ce cadavre pour le Péléide Achilleus, et dans nos mots, ceci serait pour le mieux. » Et tandis qu'il délibérait dans son esprit et dans son cœur, les phalanges troyennes arrivaient conduites par Hector. Ménélaos recula et abandonna le cadavre. Mais en se retournant, comme un lion à longue barbe que les chiens et les bergers chassent de l'étable avec des lances et des cris, et dont le cœur farouche est troublé, et qui ne s'éloigne qu'à regret de l'enclos. Ainsi le blond Ménélaos s'éloigna de Patroclos, et il se retourna dès qu'il eut rejoint ses compagnons. Et cherchant partout des yeux le grand Aias Télamonien, il le vit à la gauche de la mêlée, exhortant ses compagnons et les excitant à combattre, car Phoibos Apollon avait jeté une grande terreur en eux. Et Ménélaos courut à lui et lui dit aussitôt : « Aias, viens, ami, hâtons-nous pour Patroclos qui est mort, et rapportons au moins son cadavre à Achilleus, car c'est Hector au casque mouvant qui a ses armes. » Il parla ainsi, et l'âme du brave Aias fut remuée, et il se jeta au premier rang avec le blond Ménélaos. Et le Priamide, après avoir dépouillé Patroclos de ses armes illustres, l'entraîné pour lui couper la tête avec les reins, et livrer son cadavre aux chiens troyens. Mais Aias arriva, portant un bouclier semblable à une tour, et Hector rentra dans la foule de ses compagnons, et montant sur son char, il donna les belles armes aux Troyens, pour être portés à Ilios et pour répandre le bruit de sa gloire. Et Aias marchait autour du Ménoïtiade, le couvrant de son bouclier, comme une lionne autour de ses petits. Elle les menait à travers la forêt, quand les chasseurs surviennent. Aussitôt, pleine de fureur, elle fronce les sourcils et en couvre ses yeux. Ainsi, Aias marchait autour du héros Patroclos, et le brave Atréide Ménélaos se tenait près de lui, avec un grand deuil dans la poitrine. Mais le fils de Hippolochos, Glaucos, chef des hommes de Lycie, regardant Hector d'un œil sombre, lui dit ses dures paroles : « Hector, tu as l'aspect du plus brave des hommes, mais tu n'es pas tel dans le combat, et tu ne mérites point ta gloire, car tu ne sais que fuir. Songe maintenant à sauver ta ville et ta citadelle, seul avec les peuples nés dans Ilios. Jamais plus les Lycéens ne lutteront contre les Danaïens pour Troie, puisque tu n'en as point de reconnaissance, bien qu'ils combattent éternellement. Lâche, comment défendrais-tu même un faible guerrier dans la mêlée, puisque tu as abandonné en proie aux Achéens, Sarpédon, ton hôte et ton compagnon, lui qui, vivant, fut d'un si grand secours à ta ville et à toi-même, et que maintenant tu abandonnes aux chiens. C'est pourquoi, si les Lycéens m'obéissent, nous retournerons dans nos demeures, et la ruine d'Ilios se rapproche. Si les Troyens avaient l'audace et la force de ceux qui combattent pour la patrie, nous traînerions dans Ilios, dans la grande ville de Priamos, le cadavre de Patroclos. Et aussitôt, les Argiens nous rendraient les belles armes de Sarpédon, et Sarpédon lui-même, car il a été tué, le compagnon de cet homme qui est le plus formidable des Argiens auprès des Nefs, et qui a les plus braves compagnons. Mais tu n'as pas osé soutenir l'attaque du magnanime Aias, ni ses regards dans la mêlée, et tu as redouté de combattre, car il l'emporte de beaucoup sur toi. » Et le regardant d'un œil sombre, Hector au casque mouvant lui répondit : « Glaucos, pourquoi parles-tu si outrageusement ? Certes, ami, je te croyais supérieur en prudence à tout ce qui habite la fertile Lykié. Et maintenant, je te blâme d'avoir parlé ainsi, disant que je n'ai pas osé attendre le grand Aias. Jamais ni le bruit des chars, ni le retentissement de la mêlée ne m'ont épouvanté. Mais l'esprit de Zeus tempétueux terrifie aisément le brave et lui enlève la victoire, bien qu'il l'ait poussé au combat. Mais viens, et tu verras en ce jour si je suis un lâche, comme tu le dis, et si je saurai rompre la vigueur des Danaïens qui défendront le cadavre de Patroclos. » Il parla ainsi, et il exhorta les Troyens à voix haute. « Troyens, Lykiens et braves Dardaniens, soyez des hommes, amis. Souvenez-vous de votre force et de votre courage, tandis que je vais revêtir les armes de l'irréprochable Achilleus, enlevé à Patroclos que j'ai tué. » Ayant ainsi parlé, Hector, s'éloignant de la mêlée, courut rapidement vers ses compagnons, qui portaient à Ilios les armes illustres du Péléide. Et loin de la mêlée lamentable, il changea d'armes et donna les siennes pour être portées dans la sainte Ilios. Et il se couvrit des armes immortelles du Péléide Achilleus, que les dieux uraniens avaient données à Péléus. Et celui-ci, étant vieux, les avait données à son fils. Mais le fils ne devait point vieillir sous les armes paternelles. Et quand Zeus, qui amasse les nuées, vit Hector, couvert des armes du divin Péléide, il secoua la tête et dit dans son esprit, « Ô malheureux, tu ne songes point à la mort qui est proche de toi, et tu revêts les armes immortelles du plus brave des hommes, devant qui tous les guerriers frémissent. Et tu as tué son compagnon, si doux et si courageux, et tu as outrageusement arraché ses armes de sa tête et de ses épaules. Mais je te donnerai une grande gloire, en retour de ce qu'Andromaque ne recevra point, après le combat, les armes illustres du Péléide. » Zeus parla ainsi, et il scella sa promesse en abaissant ses sourcils bleus. Et il adapta les armes au corps du Priamide, qui, hardi et furieux comme Arès, sentit couler dans tous ses membres la force et le courage. Et poussant de hautes clameurs, il apparut aux illustres alliés et aux Troyens, semblable à Achilleus, car il resplendissait sous les armes du magnanime Péléide. Et allant de l'un à l'autre, il les exhortait tous, Mestlès, Glaucos, Médon, Terzilocos, Astéropaios, Deisinor, Hippotoos et Phorkys, et Chromios, et le divinator Ennomos. Et les excitant par des paroles rapides, il leur parla ainsi. Entendez-moi, innombrables peuples alliés, voisins d'Ilios, je n'ai point appelé une multitude inactive quand je vous ai convoqué de vos villes, mais je vous ai demandé de défendre ardemment les femmes des Troyens et leurs petits-enfants contre les Achéens belliqueux. Pour vous, j'ai épuisé mes peuples de vivres et de présents, et j'ai nourri vos forces. Que chacun combatte donc, triomphe ou périsse, car c'est le sort de la guerre. Celui qui entraînera le corps de Patroclos vers les Troyens dompteurs de chevaux aura pour sa part la moitié des dépouilles, et j'aurai l'autre moitié, et sa gloire sera égale à la mienne. » Et il parla ainsi, et tous, les lances tendues, se ruèrent sur les Danaïens, espérant arracher au Télamonien Aias le cadavre de Patroclos. Les insensés, ils devaient plutôt arracher sur ce cadavre l'âme de beaucoup d'entre eux. Et il dit au brave Ménélaos, « Divin Ménélaos, ô ami, je n'espère pas que nous revenions de ce combat, et certes, je crains moins pour le cadavre de Patroclos que les chiens troyens et les oiseaux carnassiers vont bientôt dévorer, que pour ma tête et la tienne. Car Hector couvre le champ de bataille comme une nuée, et la lourde ruine pend sur nous. Hâte-toi, appelle les princes des Danaïens s'ils t'entendent. » Il parla ainsi, et le brave Ménélaos s'empressa d'appeler à grands cris les Danaïens. « Ô amis, princes et chefs des Argiens, vous qui mangez au repas des Atréides, Agamemnon et Ménélaos, et qui commandez les phalanges, car tout honneur et toute gloire viennent de Zeus. Comme il m'est difficile de vous reconnaître dans le tourbillon de la mêlée, que chacun de vous accourt de lui-même, indigné que Patroclos soit livré en pâture aux chiens troyens. » Il parla ainsi, et le rapide Aias, fils d'Oïléus, vint le premier, en courant à travers la mêlée, et après lui, Idoménéus, et le compagnon d'Idoménéus, Mériones, semblable au tueur d'hommes Arès, mais qui pourrait, dans son esprit, dire les noms de tous ceux qui vinrent rétablir le combat des Achéens. Et les Troyens avançaient, et Hector les menait. De même que le large courant d'un fleuve tombé de Zeus se précipite à la mer, et que la mer s'enfle hors de son lit, et que les rivages résonnent au loin, de même retentissait la clameur des Troyens. Mais les Achéens se tenaient debout autour du Ménoïtiade, n'ayant qu'une âme, et couverts de leurs boucliers d'airain. Et Zeus répandait une nuée épaisse sur leurs casques éclatants, car il n'avait point haï le Ménoïtiade pendant que vivant, il était le compagnon de l'Aïakide, et il ne voulait pas qu'il fût livré en pâture aux chiens troyens, et il anima ses compagnons à le défendre. Et d'abord, les Troyens repoussèrent les Achéens aux sourcils arqués. Ceux-ci prirent la fuite, abandonnant le cadavre, et les Troyens ne les poursuivirent point, malgré leur désir du meurtre, mais ils entraînaient le cadavre. Et les Achéens ne l'abandonnèrent pas longtemps, et les ramenant aussitôt, Aias, le premier des Danaïens par l'aspect héroïque et les actions, après l'irréprochable Péléide, se rua au premier rang, semblable par la fureur à un sanglier qui, rebroussant à travers les taillis, disperse les chiens et les jeunes hommes. Ainsi le grand Aias, fils de l'illustre Télamon, dispersa aisément les phalanges troyennes qui se pressaient autour de Patroclos, espérant l'entraîner dans Ilios et remporter cette gloire. Et Hippotoos, fils du Pélage Létos, ayant lié le tendon par une courroie, traînait Patroclos par un pied dans la mêlée, afin de plaire à Hector et aux Troyens. Mais il lui en arriva malheur, sans que nul pût le sauver, car le Télamonien, se ruant au milieu de la foule, le frappa sur son casque d'airain, et le casque à crinière fut brisé par la grande lance et la main vigoureuse d'Aias. Et l'airain de la pointe traversa la cervelle qui jaillit sanglante de la plaie, et ses forces furent rompues. Il lâcha le pied du magnanime Patroclos et tomba lui-même sur le cadavre, loin de la rissée. Et il ne rendit point à ses parents bien-aimés les soins qu'il lui avait donnés, et sa vie fut brève, ayant été ainsi domptée par le magnanime Aias. Hector lança contre Aias sa pique éclatante, mais celui-ci, l'ayant aperçu, évita la pique d'airain qui frappa le magnanime Schédios, fils d'Iphitos, et le plus brave des Phocéens, et qui habitait la grande panopée, commandant à de nombreux peuples. La pique le perça au milieu de la gorge, et la pointe d'airain sortit au sommet de l'épaule. Il tomba avec bruit, et ses armes retentirent sur lui. Et Aias perça au milieu du ventre le brave Phorcys, fils de Phainops, qui défendait le corps de Hippotoos. L'airain rompit le creux de la cuirasse et déchira les entrailles. Il tomba, saisissant la terre avec ses mains, et les premiers rangs ainsi qu'Hector reculèrent. Et les Argiens, avec de grands cris, entraînèrent morts Phorcys et Hippotoos et enlevèrent leurs armes. Alors, les Troyens eussent été mis en fuite par les braves Achéens et fussent rentrés dans Ilios, domptés par leur propre lâcheté. Et les Achéens eussent remporté la victoire, malgré Zeus, par leur vigueur et leur courage, si Apollon lui-même n'eût excité Énéas, sous la forme du héros Périphas Épitide, qui avait vieilli, auprès de son vieux père, dans l'étude et la science de la sagesse. Semblable à Périphas, le fils de Zeus parla ainsi. Énéas, comment sauveriez-vous la sainte Ilios, même malgré la volonté d'un dieu ? En étant tels que des guerriers que j'ai vus, confiant dans leur propre courage, autant que dans la vigueur et le nombre de leur peuple, Zeus nous offre la victoire plutôt qu'aux Danaïens. Mais vous êtes des lâches, qui ne savez pas combattre. » Il parla ainsi, et Énéas reconnut l'archer Apollon, et il cria aussitôt à Hector. « Hector, et vous, chef des Troyens et des alliés, c'est une honte de fuir vers Ilios, vaincu, à cause de notre lâcheté, par les braves Achéens. Voici qu'un des dieux s'est approché de moi, et il m'a dit que le très-puissant Zeus nous était propice dans le combat. C'est pourquoi marchons aux Danaïens, et qu'ils n'emportent pas sans peine jusqu'au Neph, Patroclos mort. » Il parla ainsi, et il s'élança parmi les premiers combattants, et les Troyens firent face aux Achéens. Et Énéas blessa d'un coup de lance Léocritos, fils d'Arisbas, et brave compagnon de Lycomédès. Et le brave Lycomédès fut saisi de compassion en le voyant tomber. Il s'approcha, et lançant sa pique brillante, il perça dans le foie le Hippaside à Pisaon, prince des peuples, et il rompit ses forces. Le Hippaside était venu de la fertile Paionier, et il était le premier des Paionnes, après Astéropaios. Et le brave Astéropaios fut saisi de compassion en le voyant tomber, et il se rua en avant pour combattre les Danaïens, mais vainement, car les Achéens se tenaient tous, hérissés de lances, autour de Patroclos. Et Aias les exhortait ardemment, et il leur ordonnait de ne point s'écarter du cadavre en s'élançant hors des rangs, mais de rester autour de Patroclos et de tenir ferme. Le grand Aias commandait ainsi, et la terre était baignée d'un sang pourpré, et tous tombaient les uns sur les autres, Troyens, Alliés et Danaïens. Mais ceux-ci périssaient en plus petit nombre, car ils n'oubliaient point de s'entraider dans la mêlée. Et tous luttaient, pareils à un incendie, et nul n'aurait pu dire si Hélios brillait ou s'élénait, tant les braves qui s'agitaient autour du Ménoïtiade étaient enveloppés d'un noir brouillard. Ailleurs, d'autres Troyens et d'autres Achéens au bel Cnémide combattaient à l'aise sous un air serein, et là se répandait l'étincelante splendeur de Hélios, et il n'y avait de nuée ni sur la terre ni sur les montagnes. Et ils combattaient mollement, évitant les traits de part et d'autre, et séparés par un large espace. Mais au centre, sous le noir brouillard, les plus braves, se frappant de l'airain cruel, subissaient tous les maux de la guerre. Et là, deux excellents guerriers, Thrasymédès et Antilochos, ne savaient pas que l'irréprochable Patroclos fut mort. Ils pensaient qu'il était vivant, et qu'ils combattaient les Troyens au fort de la mêlée, tandis qu'eux-mêmes luttaient pour le salut de leurs compagnons, loin du Ménoïtiade, comme Nestor le leur avait ordonné, quand il les envoya des nefs noires au combat. Et pendant tout le jour, le carnage continua autour de Patroclos, du brave compagnon du rapide Aïakide. Et tous avaient les genoux, les pieds, les mains et les yeux souillés de poussière et de sang. De même, qu'un homme ordonne à ses serviteurs de tendre une grande peau de bœuf, tout imprégnée de graisse liquide, et que ceux-ci l'attendent en cercle, et que sous leurs efforts, la graisse pénètre dans la peau. De même, de tous les côtés, les combattants traînaient çà et là le cadavre dans un étroit espace, les Troyens vers Ilios, et les Achéens vers les nefs creuses. Et un affreux tumulte s'élevait, qui eût réjoui Athénée et Arès qui irritent le combat. Ainsi Zeus heurta, tout le jour, la mêlée des hommes et des chevaux sur le cadavre de Patroclos. Mais le divin Achilleus ignorait la mort du Ménoïtiade, car les hommes combattaient loin des nefs, sous les murailles de Troie. Et il pensait que Patroclos reviendrait vivant, après avoir poussé jusqu'aux portes de la ville, sachant qu'il ne devait point renverser Ilios sans lui, et même avec lui. Souvent, en effet, il l'avait entendu dire à sa mère qui lui révélait la pensée de Zeus. Mais sa mère ne lui avait pas annoncé un si grand malheur, et il ne savait pas que son plus cher compagnon périrait. Et tous, autour du cadavre, combattaient infatigables de leurs lances aiguës et s'entretuaient. Et les Achéens cuirassés disaient « Ô amis, il serait honteux de retourner vers les nefs creuses, que la noire terre nous engloutisse ici, plutôt que de laisser les braves Troyens entraîner ce cadavre vers leur ville et remporter cette gloire. » Et les Troyens magnanimes disaient « Ô amis, si la moire veut que nous tombions tous ici, soit, mais que nul ne recule. » Chacun parlait ainsi et animait le courage de ses compagnons, et ils combattaient, et le retentissement de l'airain montait dans l'Ouranos par les airs stériles. Et les chevaux de l'Aïakide pleuraient hors de la mêlée, parce qu'ils avaient perdu leur conducteur couché sur la poussière par le tueur d'homme Hector. Et vainement, Automédon, le fils du brave Diorès, les excitait du fouet ou leur adressait de flatteuses paroles. Ils ne voulaient point aller vers le large Hellespontos, ni vers la mêlée des Achéens. Et de même qu'une colonne qui reste debout sur la tombe d'un homme ou d'une femme, ils restaient immobiles devant le beau char, la tête courbée vers la terre. Et de chaudes larmes tombaient de leurs paupières, car ils regrettaient leur conducteur, et leur crinière florissante pendait, souillée, des deux côtés du joug. Et le crognon fut saisi de compassion en les voyant, et secouant la tête, il dit dans son esprit : Ah, malheureux ! Pourquoi vous avons-nous donné au roi Péléus, qui est mortel, vous qui ne connaîtrez point la vieillesse et qui êtes immortel ? Était-ce pour que vous subissiez aussi les douleurs humaines ? Car l'homme est le plus malheureux de tous les êtres qui respirent ou qui rampent sur la terre. Mais le Priamide Hector ne vous conduira jamais, ni vous, ni vos chars splendides. N'est-ce pas assez qu'il possède les armes et qu'il s'en glorifie ? Je remplirai vos genoux et votre âme de vigueur, afin que vous rameniez au Thomédon de la mêlée, vers les nefs creuses, car je donnerai la victoire aux Troyens, jusqu'à ce qu'ils touchent aux nefs bien construites, jusqu'à ce que Hélios tombe et que l'ombre sacrée arrive. » Ayant ainsi parlé, il inspira une grande force aux chevaux, et ceux-ci, secouant la poussière de leurs crins sur la terre, entraînèrent rapidement le char léger entre les Troyens et les Achéens. Et au Thomédon, bien que pleurant son compagnon, excitait l'impétuosité des chevaux, tel qu'un vautour sur des oies. Et il s'éloignait ainsi de la foule des Troyens, et il revenait se ruer dans la mêlée. Mais il poursuivait les guerriers sans les tuer, ne pouvant à la fois, seul sur le char sacré, combattre de la lance et diriger les chevaux rapides. Enfin, un de ses compagnons, Alcimédon, fils de Laërcéus Aïmonide, le vit de ses yeux, et s'arrêtant auprès du char, dit à Automédon : Automédon, quel dieu t'ayant mis dans l'âme un dessein insensé t'a ravi l'esprit. Tu veux combattre seul au premier rang contre les Troyens, et ton compagnon est mort, et Hector se glorifie de porter sur ses épaules les armes de l'Ajaccide. Et le fils de Diorès, Automédon, lui répondit : Alcimédon, nul des Achéens ne pourrait dompter les chevaux immortels, si ce n'est toi. Patroclos vivant, seul le pouvait, étant semblable au dieu par sa prudence. Maintenant, la mort et la moire l'ont saisi. Prends le fouet et les rênes splendides, et je descendrai pour combattre. » Il parla ainsi, et Alcimédon monta sur le char, et prit le fouet et les rênes, et Automédon descendit. Mais l'illustre Hector, l'ayant vu, dit aussitôt à Énéas : Énéas, prince des Troyens cuirassés, je vois les deux chevaux du rapide Ajaccide qui courent dans la mêlée avec des conducteurs vils, et j'espère les saisir si tu veux m'aider, car sans doute ces hommes n'oseront point nous tenir tête. » Il parla, et l'irréprochable fils d'Anchise consentit, et ils marchèrent, abritant leurs épaules des cuirs secs et solides que recouvraient les reins. Et avec eux marchaient Chromios et Arétos, semblables à un dieu. Et les insensés espéraient tuer les deux Achéens et se saisir des chevaux au large cou. Mais ils ne devaient point revenir sans avoir répandu leur sang sous les mains d'Automédon. Et celui-ci supplia le père Zeus, et plein de force et de courage dans son cœur sombre, il dit à son compagnon fidèle, Alcimédon : Alcimédon, ne retiens point les chevaux loin de moi, mais qu'ils soufflent sur mon dos, car je ne pense pas que la fureur du Priamide Hector s'apaise avant qu'il nous ait tués, et qu'il ait saisi les chevaux aux belles crinières d'Achilleus, ou qu'il soit lui-même tombé sous nos mains. » Ayant ainsi parlé, il appela les Aias et Ménélaos. « Aias et Ménélaos, chefs des Argiens, remettez ce cadavre au plus brave, et qu'il le défende, et qu'il repousse la foule des hommes, mais éloignez notre dernier jour, à nous qui sommes vivants. Car voici que Hector et Énéas, les plus terribles des Troyens, se ruent sur nous à travers la mêlée lamentable. Mais la destinée est sur les genoux des dieux. Je lance ma pique, me confiant en Zeus. » Il parla, et il lança sa longue pique, et il frappa le bouclier égal d'Arétos. Et le bouclier n'arrêta point les reins, qui le traversa, et entra dans le ventre à travers le baudrier. De même, quand un jeune homme, armé d'une hache tranchante, frappe entre les deux cornes d'un bœuf sauvage, il coupe le nerf, et l'animal bondit et tombe. De même Arétos bondit, et tomba à la renverse, et la pique à travers ses entrailles rompit ses forces. Et Hector lança sa pique éclatante contre Automédon, mais celui-ci, l'ayant vu, évita en se baissant la pique des reins, qui, par-dessus lui, plongea en terre et vibra jusqu'à ce qu'Arès eût épuisé sa vigueur. Et tous deux se jetaient l'un sur l'autre avec leurs épées, quand les rapides Aias, à la voix de leurs compagnons, se ruèrent à travers la mêlée. Et Hector, Énéas et Chromios, pareils à un dieu, reculèrent, laissant Arétos coucher, le ventre ouvert. Et Automédon, pareil au rapide Arès, le dépouillant de ses armes, dit en se glorifiant: du moins, j'ai un peu soulagé ma douleur de la mort du Ménoïtiade, bien que je n'ai tué qu'un homme très inférieur à lui. Et il mit sur le char les dépouilles sanglantes, et il y monta, les pieds et les mains sanglants, comme un lion qui vient de manger un taureau. Et de nouveau, la mêlée affreuse et lamentable recommença sur Patroclos. Et Athénée, descendant de l'Ouranos, anima le combat, car Zeus au large regard l'avait envoyé afin d'encourager les Danaïens, son esprit étant changé. De même que l'Ouranien Zeus envoie aux vivants une iris pourprée, signe de guerre ou de froide tempête, qui interrompt les travaux des hommes et nuit aux troupeaux. De même Athénée, s'enveloppant d'une nuée pourprée, se mêla à la foule des Achéens. Et d'abord, elle excita le fils d'Atréus, parlant ainsi au brave Ménélaos, sous la forme de phénix à la voix mâle. « Quelle honte et quelle douleur pour toi, Ménélaos, si les chiens rapides des Troyens mangeaient, sous leurs murailles, le cher compagnon de l'illustre Achilleus. Mais sois ferme et encourage tout ton peuple. » Et le brave Ménélaos lui répondit: « Phénix, mon père, vieillard vénérable, plutôt Dieu qu'Athénée me donna la force et repoussa loin de moi les traits. J'irai et je défendrai Patroclos, car en mourant, il a violemment déchiré mon cœur. Mais la vigueur d'Hector est comme celle du feu, et il ne cesse de tuer avec les reins, et Zeus lui donne la victoire. » Il parla ainsi, et Athénée aux yeux clairs se réjouit, parce qu'il l'avait imploré avant tous les dieux. Et elle répandit la vigueur dans ses épaules et dans ses genoux. Et elle mit dans sa poitrine l'audace de la mouche qui, toujours et vainement chassée, se plaît à mordre, car le sang de l'homme lui est doux. Et elle mit cette audace dans son cœur sombre. Et retournant vers Patroclos, il lança sa pique brillante. Et parmi les Troyens se trouvait Podès, fils d'Éétion, riche, brave et très honoré par Hector entre tous les autres, parce qu'il était son plus cher convive. Le blond Ménélaos le frappa sur le baudrier comme il fuyait, et l'airain le traversa, et il tomba avec bruit. Et l'Atréide Ménélaos entraîna son cadavre du côté des Achéens, et Apollon excita Hector sous la forme de Phénops Asiade, qui habitait Abydos, et qui était le plus cher des hôtes du Priamide. Et l'archer Apollon dit à celui-ci, sous la forme de Phénops: « Hector, qui d'entre les Achéens te redoutera désormais, si tu crains Ménélaos, qui n'est qu'un faible guerrier, et qui enlève seul ce cadavre, après avoir tué ton compagnon fidèle, brave entre les hommes, Podès, fils d'Éétion? » Il parla ainsi, et la noire nuée de la douleur enveloppa Hector, et il se rua au premier rang, armé de l'airain splendide. Et alors le Cronion saisit l'égide aux franges éclatantes, et il couvrit l'Ida de nuées, et fulgurant, il tonna fortement, secouant l'égide, donnant la victoire aux Troyens, et mettant les Achéens en fuite. Et le premier, le Boyotien Pénéléos, prit la fuite, blessé par Polydamas d'un coup de lance qui lui avait traversé le haut de l'épaule jusqu'à l'os. Et Hector blessa à la main Leitos, fils du magnanime Alectrion, et il le mit en fuite, épouvanté et regardant de tous côtés, car il n'espérait plus pouvoir tenir une lance pour le combat. Et comme Hector se jetait sur Leitos, Idoménéus le frappa à la cuirasse, au-dessous de la mamelle. Mais la longue pique se rompit là où la pointe s'unit au bois, et les Troyens poussèrent des clameurs. Et contre Idoménéus de Calyde, debout sur son char, Hector lança sa pique qui s'égara et perça le conducteur de Mériones, Coiranos, qui l'avait suivi de la populeuse Lyctos. Idoménéus étant venu à pied des nefs aux doubles avirons, il eût donné une grande gloire aux Troyens si Coiranos n'eût amené aussitôt les chevaux rapides. Et il fut le salut d'Idoménéus, et il lui conserva la lumière. Mais lui-même, rendit l'âme sous le tueur d'homme Hector, qui le perça entre la mâchoire et l'oreille. La pique ébranla les dents et trancha la moitié de la langue. Coïranos tomba du char, laissant traîner les rênes, et Mériones, les saisissant à terre, dit à Idoménéus: fouette maintenant les rapides chevaux jusqu'aux nefs. Tu vois comme moi que la victoire échappe aux Achéens. Il parla ainsi, et Idoménéus fouetta les chevaux aux belles crinières, jusqu'aux nefs creuses, car la crainte avait envahi son cœur. Et le magnanime Aias et Ménélaos reconnurent aussi que la victoire échappait aux Achéens, et que Zeus la donnait aux Troyens. Et le grand Télamonien Aias dit le premier: ô Dieu! Le plus insensé comprendrait maintenant que le père Zeus donne la victoire aux Troyens. Tout leur trait porte, que ce soit la main d'un lâche qui les envoie ou d'un brave. Zeus les dirige, et les nôtres tombent vains et impuissants sur la terre. Allons, songeons au moins au meilleur moyen d'entraîner le cadavre de Patroclos, et nous réjouirons ensuite nos compagnons par notre retour. Ils s'attristent en nous regardant, car ils pensent que nous n'échapperons pas aux mains inévitables et à la vigueur du tueur d'homme Hector, mais que nous serons rejetés vers les nefs noires. Plutôt Dieu qu'un de nous annonça promptement ce malheur aux Péléides. Je ne pense pas qu'il sache que son cher compagnon est mort, mais je ne sais qui nous pourrions envoyer parmi les Achéens. Un brouillard noir nous enveloppe tous, les hommes et les chevaux. Père Zeus, délivre de cette obscurité les fils des Achéens. Rends-nous la clarté, que nos yeux puissent voir, et si tu veux nous perdre dans ta colère, que ce soit du moins à la lumière. » Il parla ainsi, et le père Zeus eut compassion de ses larmes, et il dispersa aussitôt le brouillard et dissipa la nuée. Hélios brilla, et toute l'armée apparut. Et Aias dit au brave Ménélaos: « Divin Ménélaos, cherche maintenant Antilochos, le magnanime fils de Nestor, si toutefois il est encore vivant, et qu'il se hâte d'aller dire au belliqueux Achilleus que le plus cher de ses compagnons est mort. » Il parla ainsi, et le brave Ménélaos se hâta d'obéir, et il s'éloigna, comme un lion qui, fatigué d'avoir lutté contre les chiens et les hommes, s'éloigne de l'enclos, car toute la nuit, par leur vigilance, ils ne lui ont point permis d'enlever les bœufs gras. Il s'est rué sur eux, plein du désir des chairs fraîches, mais la foule des traits a volé de leurs mains audacieuses, ainsi que les torches ardentes qu'il redoute malgré sa fureur. Et vers le matin, il s'éloigne le cœur attristé. De même, le brave Ménélaos s'éloignait contre son gré du corps de Patroclos, car il craignait que les Achéens terrifiés ne l'abandonnassent en proie à l'ennemi. Et il exhorta Mériones et les Aias. « Aias, chef des Argiens, et toi, Mériones, souvenez-vous de la douceur du malheureux Patroclos. Pendant sa vie, il était plein de douceur pour tous, et maintenant, la mort et la moire l'ont saisi. » Ayant ainsi parlé, le blond Ménélaos s'éloigna, regardant de tous les côtés, comme l'aigle qui, dit-on, est de tous les oiseaux de l'Ouranos, celui dont la vue est la plus perçante, car des hauteurs où il vit, il aperçoit le lièvre qui gîte sous un arbuste feuillu, et il tombe aussitôt sur lui, le saisit et lui arrache l'âme. De même, divin Ménélaos, des yeux clairs regardaient de tous côtés, dans la foule des Achéens, s'il voyait vivant le fils de Nestor. Et Ménélaos le reconnut, à la gauche de la mêlée, excitant ses compagnons au combat. Et s'approchant, le blond Ménélaos lui dit: « Viens, divin Antilochos, apprends une triste nouvelle. Plutôt Dieu que ceci ne fût jamais arrivé. Sans doute, tu sais déjà qu'un dieu accable les Achéens et donne la victoire aux Troyens. Le meilleur des Achéens a été tué, Patroclos, qui laisse de grands regrets aux Danaïens. Mais toi, cours aux nefs des Achéens et annonce ce malheur aux Péléides, qu'ils viennent promptement sauver son cadavre nu, car Hector au casque mouvant possède ses armes. » Il parla ainsi, et Antilochos, accablé par ses paroles, resta longtemps muet, et ses yeux s'emplirent de larmes, et la voix lui manqua. Mais il obéit à l'ordre de Ménélaos. Et il remit ses armes à l'irréprochable Laodocos, son ami, qui conduisait ses chevaux aux sabots massifs, et il s'éloigna en courant, et ses pieds l'emportaient, pleurant, afin d'annoncer au Péléide Achilleus la triste nouvelle. Et tu ne voulus point, divin Ménélaos, venir en aide aux compagnons attristés d'Antilochos, aux Pyliens qui le regrettaient. Et il leur laissa le divin Thrasymédès, et il retourna auprès du héros Patroclos, et parvenu jusqu'aux Aias, il leur dit « J'ai envoyé Antilochos vers les nefs, afin de parler au Péléion aux pieds rapides. Mais je ne pense pas que le Péléiade vienne maintenant, bien que très irrité contre le divin Hector, car il ne peut combattre sans armes. Songeons pour le mieux de quelle façon nous entraînerons ce cadavre et comment nous éviterons nous-mêmes la mort et la moire à travers le tumulte des Troyens. » Et le grand Aias Délamonien lui répondit « Tu as bien dit, ô illustre Ménélaos, toi et Mériones, enlevez promptement le cadavre et emportez-le hors de la mêlée. Et derrière vous, nous repousserons les Troyens et le divin Hector, nous qui avons la même âme et le même nom, et qui savons affronter tous deux le combat terrible. » Il parla ainsi, et dans leurs bras, ils enlevèrent le cadavre. Et les Troyens poussèrent des cris horribles en voyant les Achéens enlever Patroclos. Et ils se ruèrent, semblables à des chiens, qui, devançant les chasseurs, s'amassent sur un sanglier blessé qu'ils veulent déchirer. Mais s'ils se retournent, confiant dans sa force, il s'arrête et fuit çà et là. Ainsi les Troyens se ruaient en foule, frappant de l'épée et de la lance. Mais quand les Aias se retournaient et leur tenaient tête, ils changeaient de couleur, et aucun n'osait les combattre pour leur disputer ce cadavre. Et ils emportaient ainsi avec ardeur le cadavre, hors de la mêlée, vers les nefs creuses. Et le combat les suivait, acharné et terrible, comme un incendie qui éclate brusquement dans une ville. Et les maisons croulent dans une vaste flamme que tourmente la violence du vent. Ainsi, le tumulte sans trêve des chevaux et des hommes poursuivait les Achéens. Comme des mulets vigoureux, se hâtant, malgré le travail et la sueur, traînent par l'âpre chemin d'une montagne, soit une poutre, soit un mât, ainsi Ménélaos et Mériones emportaient à la hâte le cadavre. Et derrière eux, les Aias repoussaient les Troyens, comme une colline boisée qui s'étend par la plaine, repousse les courants furieux des fleuves rapides, qui ne peuvent la rompre et qu'elle rejette toujours vers la plaine. Ainsi les Aias repoussaient la foule des Troyens, qui les poursuivaient, conduits par Énéas Anchisiade et par l'illustre Hector. Comme une troupe des tourneaux et de geais vole en poussant des cris aigus, à l'approche de l'épervier qui tue les petits oiseaux, de même les fils des Achéens couraient avec des clameurs perçantes devant Énéas et Hector et oublieux du combat. Et les belles armes des Danaïens en fuite emplissaient les bords du fossé et le fossé lui-même, mais le carnage ne cessait point.